j'ai eu l'idée d'organiser ces petites catéchèses, c'est parce que de plus en plus aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut pas se contenter simplement d'avoir des idées toutes faites, toutes prêtes à servir, d'avoir simplement la foi en disant oui, je crois, voilà, je suis croyant, je suis catholique, sans pouvoir expliquer davantage ce qu'est notre foi et ce qu'est aussi les éléments de notre religion et de la manière dont on le vit et pourquoi on le vit comme ça. De plus en plus, on rencontre des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui sont d'autres religions, et il faut être capable de parler avec eux de façon tout à fait raisonnable, sans dire bah, chacun garde nos opinions, chacun, mais pouvoir vraiment présenter notre foi positivement. C'est la raison pour laquelle on est obligé aujourd'hui de continuellement se former, comme dans d'autres domaines, hein, dans les domaines professionnels aussi, c'est la même chose. On est obligé continuellement de se donner, de se remettre à jour et puis de se remettre les idées au clair sur un certain nombre de questions. Alors je vous ai apporté, enfin il y a des petites feuilles hein, qui vous ont été distribuées. C'est juste, si jamais il y a des questions par rapport à ce que je vais dire, mais aussi par rapport à d'autres thèmes qui pourraient être abordés, eh bien vous le faites, vous pouvez les remplir aussi chez vous. Vous les déposez là-bas, il y a une petite boîte au fond de l'église. Alors cette boîte, il n'y a jamais rien dedans, pareil. Donc c'est l'occasion de mettre des choses dedans. Ouais. Rarement. Donc voilà, c'est l'occasion. Ou bien, alors après, on peut les donner, on peut les mettre dans ma boîte aux lettres, on peut les mettre à l'accueil, enfin il n'y a pas de... On peut les mettre à la sacristie. L'essentiel, c'est qu'on sache bien que c'est pour les catéchèses. Ça peut être des questions complètement anonymes, hein, je n'ai pas besoin de savoir qui pose la question. Ça peut être tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est à moi de travailler, de donner des réponses. Ça va guider un peu les interventions suivantes. Alors voilà, donc la première raison, c'est donc le fait qu'on est obligé de discuter avec les gens. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, comme notre société n'est plus chrétienne, quoi qu'on en dise, elle n'est objectivement plus chrétienne, eh bien, les chrétiens ont une force de parole, voire même d'opposition dans certains cas. Hein. Et pour cela, il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Il ne suffit pas de dire « le pape a dit ». Si dans notre tête, on ne comprend pas bien ce qu'il a dit, on n'est pas très bien. Hein. Il faut comprendre la cohérence de notre foi, parce que notre foi chrétienne est très cohérente. C'est d'ailleurs ce que Benoît XVI essaie de développer depuis le début de son pontificat, c'est de montrer combien la foi et la raison vont bien ensemble, et combien notre foi est... c'est un don de Dieu, mais qu'en même temps, la raison, notre réflexion, peut entrer et se déployer dans notre foi. Il ne faut pas dire que notre foi est raisonnable, parce qu'elle n'est pas raisonnable. Hein, dans le sens où croire en Jésus, c'est une rencontre. Mais ça, j'y reviendrai, je pense, dans d'autres moments. Mais, en tout cas, on peut, avec notre tête, avec notre intelligence, on peut expliquer des choses, on peut dire des choses qui ont du sens, et que donc des gens non-croyants peuvent accueillir. Et ça a comme conséquence que d'autres peuvent rencontrer Jésus. Hein, il y a plein de chemins pour aller vers Jésus, pour rencontrer Dieu, pour devenir chrétien, et un des chemins principaux, aujourd'hui, c'est... de pouvoir montrer que notre foi c'est un don de Dieu, c'est de la folie aussi, hein, c'est pas vraiment raisonnable, et en même temps, c'est très cohérent, ça tient très bien la route. Et ça, faut pouvoir le montrer, pouvoir le dire. Il faut pouvoir donc, alors aussi, donc une des conséquences d'avoir une certaine formation chrétienne, c'est qu'on peut témoigner de sa foi sans pudeur, décomplexé. On n'a pas à être complexé d'être croyant, d'être chrétien. Or, aujourd'hui, dans une société française et dans d'autres pays comme le nôtre. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On est assez complexé parce qu'on a une histoire, parce qu'il y a des a priori. Il faut pouvoir paisiblement, tranquillement, montrer que parfois il y a eu des erreurs dans le comportement des chrétiens, mais que la foi chrétienne a tout à fait, tient tout à fait la route et tout à fait légitime. Alors, un autre aspect, c'est de ne pas rentrer dans les faux débats. L'intérêt des catéchèses, c'est aussi de ne pas entrer dans les faux débats, et en particulier les faux débats qui nous sont présentés par les médias. Parce que les médias, eh ben, ils ont une autre. Ils ne cherchent pas à faire de la catéchèse, hein, c'est pas leur job. Donc, ils prennent les éléments qu'ils savent qui vont intéresser les gens, qui vont choquer en général. Hein, c'est ce qui marche le plus d'audimat, hein, c'est quand ça choque un peu. Donc, ils vont prendre ces éléments-là et les servir. Vous entendez pas bien ? Ouais, je sais pas trop comment faire. C'est que je parle trop près, peut-être, non ? Ça résonne ou quoi ? Ouais. Ouais. Sinon, il faut s'approcher là, parce que... Oui, parce que là, vous êtes tout près. Ben, je me suis mis très près, justement, c'est ça. Quoi. Faut me le dire, hein, parce que c'est pas la peine de venir si vous entendez rien. Ouais, ouais, non, ouais. Hein, donc c'est de ne pas rentrer dans les faux débats. Une des plus belles expressions de ça, ça a été les échos récents des discours du pape. Parlez pas trop fort. Donc, les discours récents du pape qui ont été, d'un seul coup, on a dit, eh ben voilà, le pape, il fait une interview avec un journaliste allemand, et eh ben il dit les choses nouvelles. D'un seul coup, on sort l'histoire des préservatifs et tout ça, comme si c'était... Or, il se trouve que le pape n'a pas pour rôle de dire, eh ben voilà, dans telle circonstance on peut accepter parce que voilà, les prostituées par exemple, c'est aussi va de soi qu'il ne faut pas que le sida se développe, etc. C'est pas son rôle de prendre tous les cas de figure et bon, dans le cas d'une interview, il a pu le faire un tout petit peu pour montrer ça, mais et on voit bien que d'un seul coup on dit c'est nouveau, mais fondamentalement c'est le discours de l'Église qui est maintenu, mais qui est simplement explicité davantage par le pape lui-même. Hein. En tout cas, avoir les idées au clair, ça permet de ne pas rentrer dans des faux débats, dans des fausses problématiques que parfois les médias nous donnent, et de pouvoir, se justifier un peu. Enfin, et encore deux autres raisons pour lesquelles je propose ces catéchèses, c'est la première raison, c'est que c'est le rôle du prêtre, et en particulier du curé, que d'enseigner. Dans le cadre de l'homélie, ça reste très limité. J'ai déjà des homélies longues, alors il ne faut pas que j'exagère. J'essaie de diminuer, mais si je diminue, ça veut dire qu'il y a moins de possibilités de développer les choses. Et en plus, dans le cadre de l'homélie, eh bien, je me tiens à la liturgie. Hein, je n'ai pas à faire des digressions. Je crois que je l'ai fait une fois, je ne sais pas si c'est ici, mais non, ce n'était pas ici, c'était à Aubigny. C'est un peu déplacé. L'homélie, c'est un lieu où on écoute la parole, on vit la prière de l'Église. Aujourd'hui, ça va être l'Avent, premier dimanche de l'Avent, et on s'y tient. Et on laisse parler la parole sur voilà, ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Donc, je n'ai pas à développer d'autres thèmes qui me viennent par la tête. Voilà. Sauf si, par exemple, l'évêque me le demandait pour un sujet. Bon, ça peut être des exceptions, mais sinon, de ma propre initiative, je ne peux pas. Mais c'est le rôle du curé. Je vous lis ce que dit le droit canon là-dessus. Hein. Le curé est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée intégralement aux habitants de la paroisse. C'est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits de la vérité de la foi, surtout par l'homélie, à faire les dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation catéchétique à dispenser. Hein, donc il y a les deux aspects, l'homélie, la formation catéchétique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie de prendre ma responsabilité au sérieux. Et la dernière raison pour laquelle ces catéchèses, ça peut être bien, on verra si ça marche, hein, mais, c'est que le but de notre vie chrétienne, c'est de nous convertir et de devenir des saints. Et en fait, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Tient le plus à cœur pour moi-même, bien évidemment, parce que je suis appelé aussi à la sainteté, et pour vous. Et si ces homélies pouvaient permettre, enfin, si ces catéchèses pouvaient permettre de vous faire et de nous faire cheminer vers la sainteté, voilà, ben ce serait le plus beau cadeau, ce serait l'essentiel, c'est ce que je désire le plus cher. Hein, un peu comme le curé d'Ars, hein, le curé d'Ars qui, au début, quand il arrive dans son... Je ne prends pas pour le curé d'Ars, je vous rassure. D'ailleurs, ceux qui me connaissent de près, ils voient que je ne vis pas comme le curé d'Ars du tout. Donc, comme le curé d'Ars qui arrive dans sa paroisse, qui dit au début, il a personne dans sa paroisse, hein, c'est lamentable. Il dit, mais voilà, donc il va chez les gens et tout, il fait ce qu'il peut, il va prier surtout. Et puis à la fin de l'église, à la fin de son séjour, à quelques années de sa mort, il dira, en passant dans le cimetière qui était autour de l'église, il dira, ce cimetière est rempli de saints. C'est ce que je nous souhaite. Hein, quelquefois on dit bonne santé, bonne année, bonne santé. Et bien bonne année, bonne santé, d'ailleurs c'est un peu la même famille. Hein. Voilà, alors, voilà donc pour les raisons, je regarde combien de temps ça a duré là déjà. Alors dans les 10 minutes qui me restent, je vais exposer un peu la paroisse, le rôle de la paroisse, la vie et son nécessaire renouvellement. En fait, hier, je l'ai déjà fait, le truc. En 10 minutes, j'arrive pas à tout faire. Donc, je pense que ce sera sur deux moments. Hein. Il y aura le prochain moment, ce sera le 19 décembre. Hein, parce que j'en fais une par mois, et après, le mois prochain, comme il y a Noël et les fêtes, je suis obligé d'avancer. Voilà. Alors, la paroisse. Eh bien, pour expliquer ce qu'est une paroisse, le mieux, c'est de faire un petit peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'Église ? Au début de l'Église, après la mort et la résurrection de Jésus, les 12 apôtres et les disciples sont complètement paniqués et peureux. Et par le don du Saint-Esprit, du jour au lendemain, ils deviennent courageux et commencent à prêcher autour d'eux. Et des milliers de personnes commencent à se joindre à ces premiers chrétiens. Ils se font baptiser et ça forme déjà la première communauté à Jérusalem. Très rapidement, il y a des persécutions. Hein, tout ça, c'est dans la Bible. Très rapidement, il y a les premières persécutions. Ça provoque une dispersion des premiers chrétiens. Les chrétiens ne peuvent plus rester uniquement à Jérusalem. Ils se dispersent et vont à droite à gauche. Surtout qu'en plus, la première prédication a été faite le jour de la Pentecôte. C'était une fête de pèlerinage pour les Juifs à Jérusalem, donc il y avait des Juifs d'un peu partout. Hein. Si vous lisez bien dans les Actes des Apôtres, la Pentecôte, eh bien, c'est ce qui nous est dit, c'est qu'il y a des gens de partout. Donc, très vite, il y a des gens qui retournent dans leur pays avec la foi chrétienne, et puis là, va se développer des premières communautés chrétiennes, parce que des gens vont témoigner et d'autres vont rejoindre. Et les apôtres ont un rôle très particulier, parce que c'est eux qui vont implanter les églises dans les différents lieux. Et donc, on le voit ça très clairement chez saint Paul. Hein, saint Paul, il parcourt de ville en ville, et dans ces villes, il passe, il prêche, il enseigne, et puis au moment de partir, il impose les mains à quelqu'un, et il s'en va et il confie à ce quelqu'un à qui il a imposé les mains la responsabilité de la communauté. Alors on appelle ça dans les actes et dans les lettres de saint Paul les épiscopes ou les presbytres. C'est un peu les termes sont un peu mélangés à ce moment-là hein, en grec et donc on voit déjà l'origine des noms hein, et sur chaque donc dans chaque communauté. Et ça se passe dans les villes, parce que c'est les lieux de rassemblement. Dans chaque communauté, on met un épiscope en responsabilité. Hein, Et donc, par exemple, les lettres à Tite, à Timothée, dans les évangiles, sont des lettres de saint Paul à des premiers évêques, en fait. C'est les premiers évêques. Et ainsi de suite, les évêques vont successivement imposer les mains à d'autres anciens dans les différentes villes pour assurer la responsabilité des communautés chrétiennes. Donc il y a tout de suite, dès le début du christianisme, des baptisés qui ont à leur tête des presbytres ou des épiscopes, des évêques, tout de suite à leur tête. Et ces personnes sont dans les villes, sont implantées dans les villes, parce qu'à l'époque, la campagne, d'ailleurs le mot paysan et païen, c'est la même famille, la campagne sera la dernière à être évangélisée, puisque les gens se rencontrent moins, c'est beaucoup plus difficile de les rejoindre. C'est dans les villes. Alors d'abord la ville de Jérusalem, et ensuite d'autres villes, les villes les plus importantes. Et puis bien sûr, il y a la ville de Rome, qui va être très rapidement aussi évangélisée. Dans la ville de Rome, il va y avoir une communauté juive qui va devenir chrétienne assez rapidement, qui sera assez nombreuse. Et en plus, Saint-Pierre va y vivre et va y mourir, ainsi que Saint-Paul. Ce qui fait que ça va donner à la ville de Rome un statut très particulier au sein même des autres communautés chrétiennes. Cette communauté, je prends l'exemple de la communauté de Rome parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, on connaît mieux son histoire. Au début, il y a un lieu de rassemblement autour de l'épiscope, un lieu de rassemblement pour célébrer tous les dimanches l'Eucharistie et recevoir les enseignements. Mais assez rapidement, il va y avoir trop de chrétiens et donc on ne pourra plus assurer la messe pour tout le monde. Les maisons, parce qu'au début on est dans une période de persécution, on n'a pas construit d'église, donc on va en général chez les maisons des riches pour célébrer l'Eucharistie, parce que les riches ont des maisons plus grandes, ça ne va pas suffire, assez rapidement il va y avoir des difficultés, et donc l'idée qui a été trouvée à l'époque, qui est une idée suscitée par le Saint-Esprit sans aucun doute, c'est que le prêtre, l'évêque qui préside, se fait entourer d'autres presbytres, ça veut dire anciens, d'autres anciens à qui on a imposé les mains, et il va dire à ces anciens, alors ces anciens, ils étaient vraisemblablement comme le conseil de l'évêque, c'était un peu, ils étaient autour de lui pour l'aider, et ils avaient un rôle différent des diacres, et l'évêque va dire, bah, vous allez aller célébrer dans d'autres endroits de la ville, dans d'autres quartiers de la ville de Rome. Donc, ces presbytres vont faire des eucharisties dans d'autres lieux, alors qu'au départ, il n'y avait qu'une eucharistie pour toute la communauté, le dimanche. Enfin, ça, c'est souvent dans la nuit du samedi au dimanche, d'ailleurs, parce que les gens travaillaient le dimanche. Donc, ils se dispersent comme cela. Et pour montrer la communion qu'il y avait avec l'évêque, eh bien, l'évêque va casser des parcelles de l'hostie au moment de la consécration, va les donner à des diacres, qui vont partir avec ces parcelles d'hostie dans les autres lieux de célébration eucharistique. Et cette hostie va être reçue par les prêtres et va être mise dans le calice pour montrer qu'ils sont en communion avec leur évêque. Alors vous aurez remarqué qu'encore aujourd'hui, dans la célébration de l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle le rite de l'immixtio, c'est donc ce rite de la commixtion, c'est-à-dire le prêtre casse une parcelle d'hostie et le met dans le calice. Donc c'est l'origine de ce rite, c'est celui-ci. C'est la communion avec l'évêque qui était manifestée comme cela à l'époque. Ce rite de l'immixtio, le fait de mettre une parcelle d'hostie dans le calice, est un rite donc très ancien, mais aussi qui a de multiples significations. Donc ça, je vous en donne une, mais il y en aurait d'autres à donner, que je ne peux pas donner maintenant. Donc c'est ainsi que vont commencer à se former les paroisses. Au début, donc, il y a les évêchés, on va dire, pour faire simple. Il y a des évêchés. Les communautés sont trop nombreuses, il faut subdiviser. Et on va former des paroisses dans les quartiers des villes. Et puis assez rapidement, les païens, les paysans vont se convertir. La campagne va se convertir. Et donc, il va falloir desservir les campagnes. On va envoyer des prêtres. Et on va aussi diviser le territoire en parcelles pour faire des paroisses. C'est comme ça que sont nées donc, les paroisses au sein... Des diocèses. Tout ça pour nous dire que, en fait, la paroisse, ce n'est que la démultiplication de la première communauté de Jérusalem. Hein, puisque la première communauté de Jérusalem se divise par les persécutions, enfin se disperse par les persécutions, rejoint d'autres villes. Dans les villes, on institue des épiscopes, les communautés sont trop nombreuses, donc on divise de nouveau les villes en quartiers pour faire des paroisses, etc., aider des prêtres. Les prêtres ont donc un rôle dans les paroisses de représenter l'évêque, de jouer. Quand on est curé, on est sous l'autorité de l'évêque, c'est évident, mais c'est pas simplement une autorité de style comme dans une entreprise. C'est simplement parce que on représente l'évêque, parce que l'évêque ne peut pas être partout, et on ne peut pas tous aller à Luçon pour la messe. Et donc, on représente l'évêque, et on représente Jésus aussi, à travers la présence de l'évêque. Donc, la communauté, la paroisse est la démultiplication de la première communauté chrétienne. C'est pour ça qu'on peut dire qu'une paroisse doit avoir les caractéristiques d'une communauté chrétienne, des actes des apôtres. Et je relis ce qui est écrit dans les actes des apôtres. Déjà, oulala. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour partager le prix entre tous les besoins de chacun. Entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Il faudrait que je développe ça, ce passage, mais je ne peux pas. Je voudrais, pour conclure, en tirer quelques conséquences pratiques. Être une communauté, une paroisse, c'est d'abord une communauté, à l'exemple de la communauté de Jérusalem, des Actes des Apôtres. Une communauté, ça veut dire qu'il y a une vie communautaire. Et on ne peut pas dire que la messe est suffisante pour que la communauté soit formée. La messe, c'est le centre, c'est le sommet, c'est la source. Mais si on se limite qu'à la messe, on risque d'être un petit peu en superficialité quand même. La communauté, la paroisse doit être une vraie vie communautaire. Il doit y avoir quelque chose qui se vit au-delà même de l'Eucharistie et à partir de l'Eucharistie, dans nos relations entre nous. Alors, ça veut dire que dans nos relations, il faut qu'on soit vigilant entre chrétiens. Vous savez que Jésus dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis. » Il faut qu'on soit vigilant dans nos relations entre nous à nous accueillir mutuellement. La caractéristique des communautés chrétiennes depuis l'origine, c'est que elles dépassaient les frontières sociales. Il y a toujours eu des problèmes. Toujours les frontières sociales ont tendance à se remettre en place, y compris dans la communauté chrétienne. Mais toujours, elles essaient de dépasser les frontières sociales, les limites imposé par la société qui fait qu'on ne se communique pas. Entre les riches et les pauvres, on communique moins, entre les différents milieux. Et la communauté chrétienne, normalement, est un lieu de rencontre, mais pas simplement par principe idéologique, mais simplement parce que, en devenant disciples de Jésus, on forme une vraie communauté au-delà de toutes les limites de la société. Et donc, c'est important d'être vigilant à cet aspect-là, l'aspect d'accueil réciproque, au-delà même de nos origines, de nos histoires, de nos origines à tout point de vue. Et donc, qualité d'accueil entre nous, qualité d'accueil aussi envers ceux qui viennent vers nous. Parce que, de fait, ceux qui viennent de l'extérieur vers nous, il y a toujours eu cette caractéristique des communautés chrétiennes, c'est de les accueillir et de leur annoncer Jésus dans tous les aspects de leur vie. Donc on les aide quand ils sont dans le besoin et on leur annonce le salut de Dieu, l'amour de Dieu pour leur vie. Cette qualité d'accueil aussi envers les autres. Et enfin, je termine en disant que...
Parce que là, je vais...
Oui, d'accord. Hein. Je termine en disant que... La paroisse ne peut pas se suffire à elle-même. On ne peut pas se contenter simplement d'une vie paroissiale.